Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Écho à contre-courant sur Mediapart qui s'inscrit dans le cadre d'une série intitulée Le capitalisme en crise que j'ai le plaisir d'orchestrer avec mon collègue Romaric Godin qui anime cette émission avec moi. On va évoquer aujourd'hui la façon dont la trajectoire du capitalisme et de ses crises donc se traduit en termes de relations internationales et de toutes les questions que ça pose. On va en parler avec Benjamin Burbaumer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, vous venez de soutenir une thèse et vous êtes l'auteur du Souverain et le marché. C'est aux éditions Amsterdam et le sous-titre c'est Théorie contemporaine de l'impérialisme. Comme le sous-titre l'indique bien, voilà, c'est un ouvrage dans lequel vous nous offrez un panorama assez pédagogique de toutes les théories justement de l'impérialisme qui ont été mises dans le mouvement ouvrier, dans la pensée critique de manière générale depuis un peu plus d'un siècle. Alors pour cette émission qui est très liée au monde qu'on a sous les yeux, à l'actualité, on va se concentrer sur les décennies les plus récentes. Mais avant d'y venir, est-ce que vous pourriez nous donner, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément familiers de ces débats, une définition de l'impérialisme, sachant que, d'après ce qu'on comprend à la lecture de l'ouvrage, l'impérialisme prend des visages, des formes différentes selon les phases du capitalisme lui-même. Alors comment est-ce qu'on tient un peu ces deux aspects, c'est-à-dire un phénomène qui a sa singularité, mais qui prend des formes différentes ?
Alors on commence par une question qui est un peu difficile, mais je vais essayer de donner une réponse un peu simple. Donc on pourrait tout simplement considérer que l'impérialisme, c'est la forme que prend la conflictualité interétatique, la forme que prennent les guerres sous le capitalisme. Donc l'idée sous-jacente, c'est que la conflictualité, en réalité, change au cours de l'histoire. On peut trouver une conceptualisation, une définition plus élaborée, et j'imagine qu'on va en parler, justement. Mais l'idée qui est centrale, c'est de faire le lien, en quelque sorte, entre ce qui se passe à l'intérieur d'un pays et le comportement que ce même pays adopte à l'international. Donc il y a, en quelque sorte, un lien entre ce qui est interne et ce qui est externe à un pays. Et ce lien se fait par l'idée que, finalement, il y a 100 ans, c'était surtout les pays de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, c'est la quasi-intégralité des pays du monde. Ils sont tous soumis à l'impératif de l'accumulation du capital. Et généralement, on l'envisage seulement, ou on priorise l'échelle nationale. On se demande comment fonctionne l'économie nationale. Et on a un peu du mal à se projeter, à s'interroger sur la manière dont fonctionne en fait l'accumulation du capital national à l'extérieur de l'espace national. Et donc de ce point de vue-là, si on arrive avec une définition un peu plus élaborée, eh ben on pourrait dire que l'impérialisme est la garantie politico-militaire de la reproduction de l'accumulation du capital à l'échelle internationale. Donc là, il y a plusieurs choses. Il y a donc la question des différentes échelles spatiales. Il y a la place de l'accumulation du capital qui, par définition, a vocation à s'étendre. L'accumulation du capital ne connaît pas de frontières en tant que telle. Mais en même temps, il y a quand même un ordre intatique, il y a l'existence d'État. Donc il y a ces trois choses-là qui comptent dans la théorie de l'impérialisme. C'est les différentes échelles spatiales, c'est la dynamique d'accumulation et c'est les États.
Et juste pour préciser, parce que le fait militaire et les constructions nationales, elles sont antérieures à l'extension du capitalisme, disons à grande échelle. Donc, en fait, dans les théories de l'impérialisme, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'à ce phénomène général de guerre et de construction des États s'ajoute cette dimension que vous venez de décrire d'accumulation du capital qui s'étend partout, ou est-ce que cette dynamique-là, elle vient complètement changer la nature des conflits militaires ? Ou est-ce que tout coexiste de manière un peu complexe ?
Bah, typiquement, pour faire une grande distinction, on parle souvent de l'Empire romain. Ouais. Et on pourrait dire, finalement, dans l'Antiquité, il y avait déjà de l'impérialisme. Le propos des théories de l'impérialisme, dans leur pluralité, c'est précisément de souligner en quoi les dimensions d'expansion, les opérations extérieures, les guerres, prennent une forme particulière sous le capitalisme et répondent précisément aux impératifs, à l'organisation de la société capitaliste. Et c'est pour ça aussi que finalement, les théories de l'impérialisme classiques commencent à la fin du 19e siècle, prennent leur forme au sein du mouvement ouvrier qui propose une critique du capitalisme et qui se rend compte que le capitalisme, c'est pas seulement ce qui se passe en France, c'est aussi ce que la France fait à l'étranger et c'est la même chose pour tous les pays les plus développés à l'époque. Donc c'est dans cette situation que le mouvement ouvrier s'interroge notamment sur ce que ça veut dire quand un État encourage ces entreprises à procéder à des investissements à l'étranger. On a, à la fin du 19e siècle aussi, bien sûr, la colonisation. Donc on s'interroge sur les liens entre colonisation et capitalisme. Et on a là, en quelque sorte, le point de départ une théorie qui a été initialement conçu pour décrire justement le capitalisme avant la Première Guerre mondiale, mais dont j'essaie de montrer que finalement, en fait, elle perdure. Il y a en quelque sorte une valeur explicative qui dépasse cette période-là et qu'on va retrouver à plusieurs moments de l'histoire ultérieure.
Une permanence, mais avec des éclipses, et je passe la parole à Romaric.
Oui, dans le schéma que vous présentez, dans cette histoire intellectuelle de l'impérialisme, on se rend compte qu'il y a une sorte d'éclipse, effectivement, au premier moment de l'âge néolibéral, dans les années 80-90, où cette notion, effectivement, semble un peu disparaître du paysage intellectuel, avec notamment, effectivement, le recul du marxisme à ce moment-là. Depuis, on a un retour, et toute la fin du livre souligne ce retour de la notion de l'impérialisme. Comment vous expliquez justement le retour de cette notion d'impérialisme dans les débats intellectuels à partir du milieu des années 90 et comment finalement cette notion d'impérialisme que vous venez de définir nous permet de mieux comprendre la situation dans laquelle on est actuellement?
Alors ce qui me semble important, c'est qu'on peut effectivement identifier trois moments forts dans la pensée de l'impérialisme, donc la période classique à la fin du 19e siècle, où sans doute les noms de Rosa Luxembourg, Lénine, Rudolf Hilferding sont les plus connus. On a une deuxième apogée qui est à la fin des années 60, début des années 70. Et ce qui est commun à ces deux moments-là, c'est qu'effectivement, on pense pouvoir identifier des tensions politico-militaires, potentiellement militaires en tout cas, entre les grandes puissances. Et là, la période actuelle, en tout cas celle qui s'est ouverte dans les années 2000, quand le débat sur le nouvel impérialisme apparaît dans l'espace anglophone surtout, il est un peu différent puisque à ce moment-là, on n'a pas tellement le risque d'une grande guerre entre les pays les plus avancés, même les rivalités économiques ne sont pas tellement développées, même si voilà, on les sent un peu quand même. Et ce qui est frappant à ce moment-là, c'est plutôt les interventions américaines. C'est donc ça qui a animé en quelque sorte les chercheurs, notamment anglophones, à s'interroger à nouveau, à réinvestir la théorie de l'impérialisme pour expliquer pourquoi les États-Unis partent en guerre en Afghanistan, en Irak ensuite, et ainsi de suite. Et donc on a là en quelque sorte un changement dans les faits. Donc il y a à nouveau un climat plus belliciste. Et ça coïncide aussi du coup avec une sorte de revirement intellectuel. On sort effectivement d'une phase qui était assez imprégnée par cette idée qu'il y a la mondialisation, donc l'extension des marchés, qui va de pair avec supposément l'évincement des États, qui ne joue plus un rôle très important, et qui dit évincement des États dit aussi fin de l'impérialisme, puisque les États sont précisément l'agent de l'impérialisme, c'est eux qui mènent les guerres. Donc on a cette période-là qui finalement, petit à petit, prend fin puisqu'on se rend compte que les États, finalement, jouent un rôle important justement dans l'organisation de la mondialisation. Il y a une restructuration des États et c'est dans ce cadre-là que tout d'un coup apparaissent les guerres. Donc il y a en quelque sorte à la fois une dynamique plus intellectuelle et une dynamique plus factuelle qui vont se rejoindre et qui vont du coup donner lieu au débat sur le nouvel impérialisme, qui a quand même aussi cette particularité qu'il était assez confiné à l'espace anglophone, alors qu'on aurait pu se dire la France est une des grandes puissances, elle mène régulièrement des guerres, et notamment depuis 2011 de manière plus soutenue.
Notamment pourtant, en Afrique, au Mali, on a fait des émissions là-dessus.
Voilà, vous l'avez documenté, et pourtant ce débat était relativement peu présent. Alors il y a eu quelques initiatives, mais plutôt confidentielles, et donc le livre en quelque sorte vise aussi à ouvrir un peu aux lecteurs français ce débat-là et les avancées qui ont eu lieu, puisqu'il y en a eu dans les débats récents.
Alors, vous évoquez la mondialisation. C'est intéressant parce que dans le livre, vous passez quand même quelques pages à décrire la position d'une école qu'on pourrait dire transnationale. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'elle se baptise, mais qui décrit, au fond, l'émergence de classes sociales globales. Que ce soit du côté des dominants ou du côté des dominés, des exploités, qui décrit l'émergence d'appareils d'État transnationaux. Et c'est comme ça qu'elle réussit à décrire effectivement ce qui semble faire l'originalité quand même de la période dans laquelle on baigne, quand même de mondialisation qui se différencie des phases antérieures. Donc cette phase-là qui semble assez séduisante sur le plan intellectuel ou qui colle à cet aspect globalisation, pour vous, en quoi elle est intéressante, mais en quoi elle a ses limites, puisque, d'après ce que je comprends, vous êtes quand même plutôt proche de ceux qui pensent que les États-nations comptent encore beaucoup dans la structuration du monde.
Alors là, on entre pleinement dans le sujet, puisque finalement, l'impérialisme, en tout cas, les débats autour de l'impérialisme n'ont jamais été totalement... homogène, il y a eu de la diversité, il y a eu des désaccords, et depuis que la théorie de l'impérialisme existe, il y a des désaccords et des nuances. Et typiquement, là, le courant contemporain que j'ai décrit comme étant le courant post-impérialiste, lui, il met l'accent effectivement sur un phénomène réel, qui est la montée en puissance des firmes multinationales, donc qui joue un rôle de plus en plus important, qui intègre en quelque sorte des espaces économiques différents et donc intègre aussi des espaces politiques différents. Et donc on a effectivement cette montée des entreprises multinationales. Et une des idées qui est assez importante dans le marxisme, c'est de dire que avec un changement des conditions matérielles, intervient aussi potentiellement à un changement dans la conception politique des acteurs. Et donc, effectivement, ce courant qui est représenté notamment par William Robinson, ce courant du capitalisme transnational, mais qui est en réalité assez proche aussi des travaux de Arthed Negri, qui sont un peu plus connus en France, et ce courant, il va dire, on a la montée en puissance des firmes multinationales, ça entraîne la formation d'une classe capitaliste transnationale, donc qui ne résonne plus à partir de l'État-nation, mais qui résonne à partir du monde entier, et qui va ensuite chercher à, en quelque sorte, fortifier son pouvoir économique aussi de manière institutionnelle, va donc pousser à la formation aussi d'institutions transnationales, qu'elles soient très formelles ou aussi très informelles.
Le FMI, par exemple.
Le FMI, par exemple, mais aussi le forum de Davos. Et la liste, elle est en réalité assez longue, puisqu'il compte à peu près l'intégralité des grandes institutions internationales, tant ces institutions qui, en quelque sorte, poursuivre institutionnellement les objectifs de la classe de la bourgeoisie transnationale. Et donc, de ce point de vue-là, on a effectivement là une idée qui est assez importante parce qu'elle est lourde en conséquence pour la théorie de l'impérialisme, c'est de dire, finalement, puisque le capital ne résonne plus en termes d'espaces nationaux, mais à l'échelle globale, la question de la guerre, finalement, entre les grandes puissances, elle disparaît. Il n'y a plus de raison de mener la guerre.
Je vous interromps parce que ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, dans les pages que vous consacrez à ça, c'est effectivement ça rend compte du fait que les conflits entre grandes puissances du centre se raréfient, mais aussi vous pointez l'aspect assez problématique sur le plan démocratique. On y est confronté, y compris en France, c'est-à-dire des dirigeants qui semblent raisonner d'après des impératifs justement transnationaux, mais qui sont face à des électorats nationaux et des populations qui, elles, n'ont pas du tout ce référent et ces intérêts-là. Et donc, il y a une forme de disjonction entre les élites et les dirigés.
Et ça, justement, là, il faut s'interroger sur à quel point le capital est réellement transnational. Et le courant du post-impérialiste, il mobilise des données, et notamment un indicateur qu'on appelle l'indice de transnationalité, qui est un indice fourni par la CNUSET, donc une agence des Nations Unies, et qui indique en quelque sorte la part des 100 plus grandes entreprises multinationales détenues à l'étranger. Donc, quelle est la proportion de leurs ventes à l'étranger, quelle est leur proportion d'actifs détenus à l'étranger, et quelle est la proportion de leur emploi à l'étranger. Et donc, cet indice, effectivement, au début des années 2000, il était autour de 54%, il est monté à 65% aujourd'hui. Donc on a incontestablement une extension des relations transnationales, une organisation de plus en plus transnationale du capital, mais qui reste quand même à nuancer, parce que là, il s'agit seulement des 100 entreprises les plus transnationales. Et il y a quand même beaucoup plus d'entreprises, et donc de ce point de vue-là, on a là quelque chose qui mérite justement d'être un peu interrogé de manière critique, et on a en même temps aussi des travaux sur l'organisation des entreprises multinationales où on constate assez clairement qu'il y a toujours un biais vis-à-vis du pays d'origine de cette entreprise, que ce soit en matière de culture, en matière de stratégie. Donc il y a en quelque sorte là quelque chose qui me semble justement intéressant, c'est que ce qui paraît impressionnant à l'heure actuelle, c'est effectivement cette transnationalisation, mais en réalité, elle n'est pas aussi avancée qu'on pourrait le croire, et c'est ça qui me conduit justement à du coup à me pencher sur qu'est-ce que l'État-nation et la référence à l'espace national pèsent encore aujourd'hui dans le capitalisme contemporain.
Alors, si on vient justement à l'aspect pratique de cette problématique entre le capitalisme transnational et puis la survivance et la persistance des États-nations, quelles conséquences stratégiques ça peut avoir dans le cadre des luttes, notamment des travailleurs ou des militants anticapitalistes? Est-ce qu'il faut une lutte au niveau national? Est-ce que cette lutte nationale, elle suffit? Est-ce qu'elle doit être au niveau international? Finalement, ça nous ramène à toutes les contestations des traités de commerce internationaux, puisque le commerce, c'est finalement le lien. C'est ce qui fait le lien entre justement les capitalismes nationaux et cet aspect international. Comment justement on peut trouver la bonne dimension, le bon niveau de contestation de ce capitalisme contemporain?
Alors, si on revient au courant du capitalisme transnational, pour lui, la réponse, elle est très simple. Puisque le capital s'organise à l'échelle transnationale, le travail doit le faire aussi. Et donc, il y a cette idée, ici, d'une lutte des classes à l'échelle mondiale, finalement. Mais il me semble qu'il s'agit ici d'une impasse, en tout cas il y a une dimension impensée, à savoir que les capacités organisationnelles du capital et du travail ne sont pas les mêmes. Typiquement, le capital est effectivement plutôt équipé pour s'organiser à l'échelle de plusieurs pays, alors que les travailleurs, précisément, eux, ils restent beaucoup plus fortement ancrés dans l'espace, parce que leur lieu de travail, il est inscrit dans un espace particulier. Leurs capacités de communication sont limitées parce qu'il y a une diversité linguistique et que, de ce point de vue-là, effectivement, s'organiser à l'échelle transnationale est beaucoup plus difficile. De ce point de vue-là, il est intéressant aussi que, finalement, on a eu cette phase, effectivement, altermondialiste à la fin des années 90 et les années 2000. Et ça a donné lieu à des grandes manifestations, mais qui me semblaient finalement relativement impuissantes. Alors ça a effectivement attiré l'attention sur la question des traités de libre-échange, par exemple, mais en même temps, il n'y a pas eu un véritable levier sur ces traités de libre-échange, alors que historiquement, en quelque sorte, l'outil que mobilise la classe ouvrière, c'est la grève, c'est le blocage, et ces outils-là ont un impact directement sur le processus d'accumulation, puisqu'ils l'interrompent en quelque sorte. Et donc, uniquement raisonner en termes transnationaux, finalement, moi, il me semble que c'est en quelque sorte désarmer les personnes qui voudraient s'engager dans les luttes, parce qu'il n'y a pas de point de contact vraiment tangible. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, il me semble intéressant aussi de rappeler que c'est pas pour autant que les travailleurs sont condamnés à l'impuissance, puisque précisément le capital ne s'organise pas non plus totalement à l'échelle transnationale. Typiquement, même du point de vue d'une entreprise, elle a ses locaux quelque part, elle a ses bureaux quelque part, elle a son siège quelque part. Donc elle est quand même aussi, de ce point de vue-là, plongée dans un espace particulier qui, jusqu'à présent, reste toujours un espace national, et qu'elle, même si elle est mobile, même si l'entreprise est mobile, elle peut quand même pas non plus s'en défaire du jour au lendemain. Et puis, la question des infrastructures me semble importante aussi, parce que une entreprise, justement, choisit de s'implanter pas uniquement en fonction des salaires, même si ça, c'est évidemment une question très importante, mais il faut aussi que les infrastructures de communication, de transport soient disponibles. La question de la formation joue un rôle important, et donc, de ce point de vue-là, le capital n'est pas totalement mobile. Donc il me semble important d'insister sur ce phénomène-là pour justement avoir une appréciation un peu plus équilibrée de la réalité du capitalisme contemporain.
Alors on va revenir un peu à la situation actuelle et à sa description. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, on reste dans une logique d'impérialisme états-unien, hein, les États-Unis restant la grande puissance du moment, et finalement le capitalisme actuel s'organisant autour de cet impérialisme des États-Unis. Est-ce que, au contraire, vous voyez la possibilité d'avoir des impérialismes secondaires, d'avoir une sorte concurrence impérialiste à celle des États-Unis? Comment vous décrivez aujourd'hui la situation concrète de cette réalité impérialiste?
La place des États-Unis, elle est effectivement singulière, elle est assez exceptionnelle. Peut-être que là, on peut aussi rendre un peu hommage à Leo Panitch, un théoricien justement de l'impérialisme qui est décédé récemment. Et lui, justement, a proposé une lecture de l'impérialisme américain qu'il a caractérisé comme impérialisme informel. Donc, qu'est-ce que c'est l'impérialisme informel des États-Unis? Eh bien, il repose sur finalement un phénomène qui est en cours depuis 1945, où les États-Unis ont effectivement procédé, enfin, les grandes firmes américaines ont procédé à des investissements directs en Europe, notamment, de sorte à, en quelque sorte, intégrer l'Europe de l'Ouest, en tout cas dans un premier temps, dans le capitalisme américain. Et il propose quelque chose d'assez original, à savoir une lecture, on va dire, politique de l'investissement direct à l'étranger, puisqu'un investissement direct à l'étranger, c'est pas seulement un apport de capital qui permet ensuite de faire fonctionner une entreprise. Non, c'est aussi une transformation des forces sociales dans le pays d'accueil de cet investissement. Et donc, plus vous avez des investissements américains, plus, en quelque sorte, la classe dominante du pays en question va développer des intérêts favorables au fonctionnement du capitalisme mené par les États-Unis. Et donc l'idée de...
C'est de façon pacifique en Europe, et puis des fois on emploie la force quand ça ne suffit pas, par exemple dans l'arrière-cour latino-américaine, quoi.
Alors effectivement, on se pose la question de qu'est-ce qui se passe ailleurs, et effectivement, ça n'empêche pas les États-Unis de recourir à la guerre d'une manière ou d'une autre, mais on a quand même là une spécificité parce que ça évite en quelque sorte que les grandes puissances se fassent la guerre, parce que c'est sur ça que l'impérialisme s'est construit initialement. C'était la France contre l'Allemagne, puis l'Angleterre. Et ça, justement, on ne l'a pas vu, par exemple, au moment de la crise des années 70. Puis, plus récemment, on n'a pas vu des vrais conflits interétatiques entre les pays les plus développés. Et donc ça, effectivement, ça solidifie, en quelque sorte, la théorie de Panitch, qu'il y a un impérialisme informel où la plupart des grandes puissances s'intègrent, effectivement, au fonctionnement d'un capitalisme supervisé par les États-Unis, mais évidemment, pas tous les pays du monde se trouvent dans cet impérialisme informel, et c'est là où il y a précisément un potentiel conflictuel à l'heure actuelle. Et donc on le voit notamment avec la Chine, parce que c'est ça un peu l'ambiance actuelle. L'ambiance actuelle, c'est qu'on parle beaucoup de guerre commerciale. Ouais. Ce terme est assez répandu. Il y a un livre qui est paru récemment qui s'appelle Trade Wars, a Class Wars.
Oui, on l'a chroniqué effectivement chez nous à Mediapart.
Ah ben voilà, et ce livre-là, il me semble qu'il a eu beaucoup de succès à l'échelle internationale. Et la première page de ce livre, c'est une citation d'un théoricien britannique, un libéral britannique qui s'appelle John Hobson, et qui justement était une des grandes influences de Lénine. Donc on a en quelque sorte là une filiation, un livre tout récent fait référence à un théoricien libéral qui lui-même a inspiré la pensée de Lénine sur l'impérialisme. Et donc là, effectivement, il me semble que l'ambiance actuelle, elle est assez propice à s'interroger à nouveau sur les questions d'impérialisme. Et peut-être que justement, on peut approfondir ça.
C'est justement une des questions quand même sur lesquelles on peut insister, puisqu'il y a ce que décrit Panitch, en fait, sur cet impérialisme informel, commence un petit peu quand même à se fissurer. Et on voit que la Chine a aussi une logique d'arrière-cour, hein, avec la fameuse route de la soie, avec ses investissements en Asie, en Afrique, en Asie, en Europe de l'Est. On voit également que une partie finalement de la classe dominante des États-Unis n'est pas satisfaite en fait du circuit capitaliste entre les États-Unis et la Chine, et donc on a l'impression effectivement que cet équilibre qui était un peu supervisé par les États-Unis et qui a permis finalement l'émergence de la Chine comme une grande puissance économique, en tout cas, aujourd'hui, il est en train de se fissurer et peut-être de donner naissance à un nouveau conflit impérialiste.
Ouais, je prolonge la question en disant que, effectivement, la thèse de Panitch que vous mettez en valeur, elle va à contre-courant d'un discours sur le déclin relatif des États-Unis depuis les années 70, qui est accentué par l'ambiance de la pandémie, qui a l'air d'être un peu mieux géré côté chinois que côté États-Unis.
Oui, effectivement, là, ça, c'est un peu le grand débat en ce moment même. Et quand on regarde un peu ce qui se passe en Chine, il y a effectivement, depuis la dernière crise, il me semble qu'il y a eu une accélération. Donc, la réaction chinoise aussi face à la crise de 2008, c'était de procéder à des dépenses publiques assez importantes. Donc la Chine a augmenté ses capacités de production et la produit plus. Et donc là, elle s'est trouvée face à une situation de suraccumulation à partir de 2012.
Je vous arrête, mais cette surproduction, finalement, elle rendait service à l'époque, il faut le rappeler, au capitalisme occidental, pour le coup, puisque c'est la Chine qui a relancé pour le reste du monde, et notamment le reste du monde avancé, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest et Amérique du Nord.
Ah ben là, ça permet justement de s'interroger sur ces relations-là, puisque effectivement, donc, dans un premier temps, ça pouvait être accueilli favorablement, mais à partir du moment où la Chine a des capacités de production très très importantes, renforcées, et une production qui a été invendue en partie, et bien là, elle commence à s'interroger sur qu'est-ce qu'on va faire, étant donné que l'augmentation des salaires n'est pas visiblement une option pour le marché chinois, et bien se pose en quelque sorte il y a une autre possibilité, à savoir la projection vers l'extérieur. Et donc, effectivement, cette amorce d'une crise de suraccumulation en Chine avait été déjà atteinte en 2012, donc assez vite, en fait. Et c'est en 2012 aussi que naît le projet de la route de la soie, et qui, du coup, repose en quelque sorte sur deux piliers qui sont liés et qui nous permettent directement de faire le lien avec la théorie de l'impérialisme, puisque le premier, c'est effectivement le pilier économique, donc un désinvestissement dans des pays voisins. La Chine propose des plans de construction d'infrastructures assez importants à tous ces pays voisins, aussi bien sûr dans le but de construire sur place, et dans le but aussi de favoriser ensuite les échanges commerciaux. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, il est plus géostratégique, puisque quand on regarde un peu la carte de l'Asie, ce qu'on voit, c'est que les constructions d'infrastructures effectuées par la Chine dans les pays autour de la Chine correspondent quand même à une logique assez précise. On a par exemple la construction d'une route à travers la Birmanie, et ça fait écho aussi avec la situation contemporaine, une route à travers la Birmanie qui se termine dans le golfe de Bengale, où la Chine construit aussi un port. Et donc là, on a une sorte de première descente vers le sud de la Chine, vers l'océan Indien. Et on a à peu près la même configuration plus à l'ouest de la Chine, où la Chine construit aussi une route à travers le Pakistan jusqu'à la ville de Gwadar, où il y a aussi la construction d'un port. Et donc ces deux choses-là me semblent assez importantes, puisqu'elles se situent directement sur la route principale d'exportation chinoise vers l'Europe et d'importation chinoise de pétrole de la péninsule arabe. Et donc, ce qui inquiétait la Chine sur cette route-là, c'est qu'avant la construction de ces deux ports, finalement, les cargos chinois devaient notamment traverser le détroit de Malacca, par exemple, entre l'Indonésie et la Malaisie. Ensuite, il fallait aussi contourner la péninsule indienne. Donc ça fait à la fois des trajets longs et des risques géopolitiques. Et avec deux ports dans l'océan Indien, typiquement, la production faite dans la province de Yunnan, en Chine, elle peut être écoulée facilement à travers la Birmanie. La même chose pour la production plus à l'ouest de la Chine. Et je termine sur un dernier point. Cette construction de ports, elle augmente aussi les projections de capacité militaire de la Chine, puisque bah, pour faire fonctionner des navires de guerre, il faut à un moment ou à un autre des points de ravitaillement. La Chine a seulement une base militaire à Djibouti, et ces ports-là, justement, ont été conçus aussi dans l'optique de pouvoir ravitailler les navires chinois et donc de permettre à la Chine de jouer aussi un rôle géopolitique plus important.
Est-ce que ça veut dire qu'on peut parler de stratégie impérialiste chinoise actuelle et du coup, je prolonge parmi les exemples que vous donnez, est-ce qu'on fait rentrer là-dedans la question de la dépendance financière? Parce qu'un des thèmes qui est monté, notamment à l'occasion du Covid, parce qu'il y a des tas de pays qui se sont retrouvés en situation de récession, c'était le fait que des tas de pays sont endettés vis-à-vis de la Chine. Il y a une grave question sur leur capacité à rembourser l'État chinois, la puissance publique chinoise, et s'ils n'étaient pas en mesure de les rembourser, évidemment, ça les met en situation de très grande dépendance.
Alors, ça, c'est d'ailleurs un peu la magie aussi de ce que propose la Chine, parce que la Chine propose de construire des infrastructures, mais avec quoi est-ce qu'on paye ces infrastructures? Avec des prêts chinois. Et ensuite, on embauche des entreprises chinoises pour produire. Avec cette particularité que les investissements chinois sont quand même assez contestés, à la fois en Birmanie, mais aussi au Pakistan et ailleurs. Donc, des ouvriers, des ingénieurs chinois se font régulièrement attaquer. Donc là, la Chine, en quelque sorte, a aussi son intérêt à encourager, en quelque sorte, les capacités militaires des États qui sont justement autour d'elle. Donc, il y a ce lien entre finance et militaire qui a été déjà souligné il y a plus de 100 ans par Rosa Luxembourg quand elle disait, bah, finalement, la construction d'infrastructures qu'effectuent les grands pays, c'est toujours un prétexte aussi pour l'occupation. Alors là, il ne s'agit pas tellement aujourd'hui d'envisager que la Chine va occuper le Pakistan, mais elle va encourager le Pakistan à précisément avoir une présence militaire ou en tout cas policière plus forte autour des points importants, les points d'infrastructure. Et puis, ces infrastructures permettent ensuite à la Chine de se projeter et de jouer en quelque sorte dans la cour des grandes puissances.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est précisément le point de départ de votre réflexion sur la Chine, était de dire l'augmentation des salaires, en tout cas l'augmentation relative, hein, puisque les salaires chinois augmentent, mais augmentent moins vite en fait que la richesse globale chinoise. L'augmentation des salaires, pardon, en Chine n'est pas une option. Et donc là, on voit le lien finalement entre la lutte de classe intérieure cette projection impérialiste qui finalement était au cœur déjà de la réflexion des théoriciens classiques il y a 100 ans.
Évidemment, là, on a une continuité parfaite. Et il me semble important aussi à ce moment-là de souligner qu'effectivement, concrètement, ou en réalité abstraitement, on peut concevoir la possibilité d'augmenter les salaires. Sauf que, du point de vue de la classe dominante, ça entraîne évidemment tout un tas de problèmes, puisque plus vous renforcez le pouvoir d'achat des travailleurs, souvent c'est couplé aussi à plus d'emplois, et ben ça réveille aussi un peu les revendications ouvrières, et donc c'est aussi de ce point de vue-là en quelque sorte un facteur d'instabilité. Donc on est un peu coincé dans cette situation-là qui pousse les États à privilégier de trouver des solutions aux crises de suraccumulation à l'extérieur de leurs propres frontières. Et donc de ce point de vue-là, il me semble que la question de la conflictualité interétatique, elle est toujours d'actualité, et même peut-être plus fortement aujourd'hui qu'il y a 20 ans.
Ce que vous avez dit de passionnant là sur le théâtre asiatique nous renvoie à des choses qu'on a traitées dans cette émission, comme tout cet espace indo-pacifique. Mais je voulais revenir sur notre petite province européenne pour terminer l'émission. Une des questions qu'on se posait, au fond, c'est comment est-ce qu'on classe l'Union européenne dans ce vaste paysage? Est-ce qu'on peut parler d'un impérialisme, est-ce qu'il reste quelque chose d'un impérialisme européen, ou est-ce qu'il est totalement intégré à ce fameux impérialisme informel que vous avez décrit, supervisé par les États-Unis, ou est-ce que voilà, il reste quelque chose à l'extérieur de l'Union européenne de pratiques impérialistes, et est-ce qu'il y a aussi de l'impérialisme intérieur à l'Union européenne, puisqu'on est dans des conflits qu'on chronique aussi beaucoup au journal, entre les pays du Nord, les plus riches, les plus exportateurs, et les pays du Sud, en général les plus endettés, les plus dépendants, pour le coup, des pays du Centre. Donc, voilà, comment vous faites jouer cette catégorie-là d'impérialisme vis-à-vis de l'Union européenne ?
Alors, je vais du coup procéder en deux temps, puisqu'il y a effectivement ce qui se passe à l'intérieur de l'Union européenne et le comportement de l'Union européenne vis-à-vis de l'extérieur. Donc, je vais commencer par le deuxième aspect. Ce qui est frappant, c'est que finalement, il y a eu une première tentative de construire en quelque sorte les débuts d'un impérialisme européen dès les années 50 avec la communauté de défense.
Oui, qui n'a pas vraiment vu le jour, mais voilà, qui était un projet. Quand même.
Ouais. Qui n'a pas vu le jour, et il me semble que c'est très important, parce que c'est pour la même raison qu'à l'époque, enfin fondamentalement pour les mêmes raisons qu'à l'époque, qu'on n'a toujours pas d'impérialisme européen aujourd'hui. Les Européens, là récemment, à nouveau, il y a un conflit entre la France et l'Allemagne sur l'industrie, par exemple, d'armement. Donc, ils n'arrivent pas vraiment à se mettre d'accord, ou en tout cas difficilement, et la question de la projection de la force reste quand même très largement une compétence nationale. Donc ça n'est pas partagé à l'échelle européenne, et on n'a pas d'intervention européenne qui mérite d'être qualifié comme tel, parce qu'il y a effectivement, il y a quelques petites opérations, mais qui n'ont rien à voir avec ce que fait la France toute seule en Afrique de l'Ouest, au Proche-Orient. Donc, de ce point de vue-là, il me semble que même si l'Europe, en tant que telle, a par exemple des dépenses en recherche et développement très importantes dans le secteur de l'armement, qu'en Europe, il y a des grandes puissances, notamment la France et l'Angleterre, mais l'Union européenne en tant que telle ne me semble pas constituer une entité impérialiste. Par contre, les États, certains, le sont. Et ensuite, ça m'emmène sur la question des relations à l'intérieur de l'Union européenne. Et ce que j'essaye de développer un peu dans mon livre, c'est précisément une distinction entre la politique économique internationale et l'impérialisme. Parce que parfois, on a une inflation du recours au terme d'impérialisme au point de ne plus très bien savoir de quoi il s'agit en réalité. Et là, il me semble que, typiquement, des initiatives en matière de politique économique internationale, que ce soit des plans d'ajustement structurel à l'extérieur de l'Europe ou ce qu'on a vu avec la Grèce, où finalement c'est la même chose qui a été imposée, ça, ce n'est pas de l'impérialisme. Tout ça reste en quelque sorte dans le cadre du contrat, puisque c'est quand même ça aussi une des particularités du capitalisme, c'est que l'appropriation est jugée légitime dès lors qu'elle se fait sur la base d'un contrat. Et l'impérialisme, c'est précisément quand on passe outre les engagements contractuels, puisque dans l'arène internationale, il n'y a pas un souverain mondial qui organiserait et qui gère la force. Donc on a effectivement plusieurs puissances qui peuvent se disputer. Il y a une absence de monopole de violence légitime. Et donc les États qui outrepassent les engagements contractuels, qui vont en guerre dans d'autres pays, ce sont les États impérialistes, alors qu'au sein de l'Union européenne, on a plutôt des dynamiques asymétriques, un développement inégal, mais qui reste sur la base d'engagements contractuels. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas là des...
une forme de violence aussi, quand même.
Alors effectivement...
Ce que vous dites, si je comprends bien, c'est que la domination économique, elle peut exister, elle peut avoir des conséquences assez graves pour les vies humaines. L'austérité en Grèce, ça se paye aussi en souffrance et en vie humaine. Mais tant qu'il n'y a pas l'intervention la dimension politico-militaire que vous évoquiez en début d'émission, pour vous, c'est compliqué de décrire ça comme impérialiste, si on est strict un peu sur les mots qu'on emploie.
Oui, il me semble qu'il nous faut un usage un peu plus rigoureux de ce terme-là, ce qui n'implique pas du tout un jugement moral sur ce qui est mieux ou ce qui est pire, mais c'est plutôt une question analytique.
Lorsque la BCE fait pression sur un gouvernement de l'Union en lui disant « vous pouvez cesser d'avoir accès à l'euro », si vous ne faites pas ce que l'on vous demande de faire,
c'est ce qui s'est passé en Grèce,
mais aussi en Italie, mais aussi en Irlande, vous ne percevez pas ça comme un élément d'impérialisme, ça reste dans le contrat lié finalement aux bases de la zone euro. C'est inclus dans, lorsqu'on rentre dans l'euro, finalement on accepte cette domination informelle de la BCE.
Oui, il me semble qu'effectivement, les formes par lesquelles s'exercent les dominations, la forme que prend le développement inégal au sein de l'Europe, elle est importante. Et on peut même aussi regarder un peu dans le voisinage européen. On a vu, par exemple, à partir de 2014, un conflit en Ukraine, un conflit dans lequel était impliquée l'Union européenne, puisqu'elle proposait, elle poussait l'Ukraine à adhérer à un traité de libre-échange, tout en précisant que la participation de l'Ukraine à l'union douanière euro-asiatique à laquelle l'Ukraine appartenait déjà depuis 2011 était incompatible avec le traité que propose l'Union européenne. Donc l'Union européenne a clairement poussé, a mis en quelque sorte l'Ukraine dans une situation où elle devait décider entre la Russie et l'Union européenne. Et finalement, l'Union européenne n'est pas intervenue militairement, la Russie l'a fait, et donc de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a effectivement un impérialisme russe en Ukraine, même si l'Union européenne était parfaitement impliquée dans la formation de ce conflit-là. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, je fais une distinction entre politique économique internationale et impérialisme, tout en sachant que les deux, effectivement, ne sont pas totalement séparés. Il y a un continuum, et c'est précisément en ça que consiste la spécificité aussi des théories de l'impérialisme, c'est que, à la différence de la plupart des théories des relations internationales, il ne fait pas cette coupure absolue entre d'un côté l'intérieur et de l'autre côté l'extérieur. Il y a justement une continuité des espaces. Et donc, de ce point de vue-là, aussi, des pressions économiques peuvent à un moment devenir un conflit militaire, mais ne le deviennent pas nécessairement.
Très bien. En tout cas, on va terminer sur cette mise au point très claire et on renverra donc pour tous les développements sur les théories de l'impérialisme depuis un siècle à votre ouvrage, hein, Le Souverain et le Marché, aux éditions Amsterdam, dont je ne cesse de louer les couvertures. Je trouve très esthétique à chaque fois qu'on montre leurs ouvrages dans cette émission. Eh bien, merci à Romaric d'avoir animé cette émission avec moi et puis merci à vous surtout d'être venu nous parler au passage Brulon. Rendez-vous sur Mediapart.fr pour tous les autres grands entretiens du studio. Merci.